Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc, nous allons continuer sur cette petite série sur l'Exode et sur Monsieur Moïse, dont on a parlé la semaine dernière, on en a reparlé au culte mercredi. Voilà, donc on a parlé de Exode 1, on a parlé de Exode 2, et là, on va parler essentiellement de Exode 3. Et on va rester toujours dans ce contexte de la vie de Moïse, qui est quand même assez intéressante pour nous, qui est particulière. Pour lui, on va dire, mais quand même. Alors, je vais juste démarrer par une paire de versets qui sont à la fin du chapitre 2, et ça va faire le lien, enfin, ça va plutôt introduire ce dont on va partager derrière, en fait. C'est même un lien en tout cas, une espèce d'introduction, si on veut. Alors, en Exode 2, 23, il nous est dit, donc, longtemps après, le roi d'Égypte, donc longtemps après que Moïse atterrisse en Madian chez son beau-père, qui se marie, qui a des enfants, etc. Donc, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient, encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. On s'arrête là une petite minute, juste en fait pour remarquer une chose. Alors, même on va remonter un petit peu en arrière. Première chose qu'on peut dire, je l'ai dit mercredi au culte, c'est qu'en fait, quelque part, parce que Moïse, enfin, on a l'impression que parce que Moïse ne s'y est pas pris correctement, il a la première fois, donc à l'issue de sa première partie de 40 ans, quand il va vers ses frères et que finalement ça se passe pas, ça fonctionne pas comme il veut, hein, il fait justice à l'un, il tue un Égyptien, puis après il veut trancher un peu, on va dire, faire le juge entre deux Hébreux, puis finalement il est découvert, ça remonte à Pharaon et finalement il fuit et il se retrouve effectivement dans le désert de Madian. Bon, ce qui entre guillemets est un choix, il aurait pu partir ailleurs en même temps. Hein. Et donc la chose que j'avais dit, c'était que finalement de ce fait, les 40 années suivantes, ce sont 40 années perdues pour les Hébreux qui étaient sous l'esclavage. Et d'une certaine manière. C'est-à-dire que on peut penser que quand Moïse a essayé d'intervenir la première fois, il a au moins compris quelque chose de la part de Dieu. Je ne vais pas dire qu'il a entendu de la part de Dieu, mais il a au moins compris ce que Dieu voulait pour lui, en fait. Sauf que, on va le voir. Il a juste compris, grosso modo, l'ordre de mission, mais vraiment pas plus. Et ce que je veux dire par là, je m'explique quand je dis qu'ils ont perdu 40 ans, ce que je veux dire par là, c'est que on peut penser dans l'absolu que Dieu veut libérer les Hébreux de l'esclavage. Et l'impression que nous donne le récit, c'est que la faute à ce décalage de 40 ans, il est à Moïse, qui fonctionne dans la chair, qui n'entend pas Dieu ou qui n'attend pas ou ceci ou cela. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement ça, mais ce que je veux dire, c'est que je dis ça pourquoi? Parce que le parallèle avec notre vie, c'est que Dieu peut-être a des projets, a des plans pour notre vie, a peut-être des missions, appelons ça, je ne sais pas, le mot qui vous parle le plus. On comprend ou on ne comprend pas, on n'y rentre pas toujours de la manière qu'il faut, ou on n'attend pas Dieu, on n'y va pas selon les voies de Dieu, comme je l'expliquais mercredi soir. Et du coup, l'espèce de point d'interrogation, c'est de se dire, mais en fait, si Dieu veut vraiment que ça se fasse, quelque part, il va le faire, entre guillemets, malgré moi. Je vous prends un exemple très simple, très basique, voilà, dans l'Église d'aujourd'hui. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, c'est même marqué dans la Bible. Donc, l'évangélisation, c'est de Dieu. Quelle que soit la forme d'évangélisation, c'est de Dieu. OK. Mais peut-être que Dieu est intéressé, est plus intéressé par autre chose que par notre évangélisation. Et ça, j'en suis sûr. Il est plus intéressé par la relation avec lui, par le fait qu'il veut façonner Christ en nous, par le fait qu'il veut qu'on le découvre, qu'on le connaisse, etc. Et après, l'évangélisation comme d'autres choses hein, qui font partie du plan de Dieu, qui sont sur le cœur de Dieu, qui sont importants pour Dieu, en fin de compte, C'est comme, enfin, c'est pas, même pas comme si, quelque part, c'est vrai. Dieu n'a pas besoin de nous. Il veut nous faire participer, mais il veut nous faire participer avec, dans une forme de qualité. Il ne veut pas juste nous faire participer pour dire qu'on est dans la liste de ceux qui ont fait quelque chose dans le royaume de Dieu. Il veut nous faire participer réellement main dans la main avec lui. Et si vous voulez, la première intervention de Moïse, c'est comme si un chrétien aujourd'hui, il a compris à quoi il était appelé. Prenons, admettons que ça soit, on va rester sur l'évangélisation, admettons que ce soit l'évangélisation, ou alors on va prendre deux choses, l'évangélisation et peut-être enseigner la Bible. Et sauf que le gars, il n'y va pas selon la manière de Dieu, il n'attend pas le temps de Dieu, il n'attend pas comment dire, de trouver une profondeur avec Dieu. Voilà, en fait, il y va un petit peu charnellement, mais avec des bonnes intentions. Et ça, c'est essayer d'accomplir les objectifs de Dieu, qui sont peut-être réellement les objectifs de Dieu, mais avec une manière qui n'est pas celle de Dieu. Et je pense que Dieu est plus intéressé par ses voies, sa manière, que par l'objectif. Bien sûr qu'il est intéressé par l'objectif, mais dans l'absolu, l'objectif, il peut le réaliser tout seul. Mais il veut nous faire participer. Du coup, les voies sont importantes. Et donc, voilà, donc comme j'avais dit, il y avait cette espèce de, ou l'impression du moins, d'avoir perdu 40 ans dans ce projet initial que Dieu avait avec Moïse. Et ici, du coup, pourquoi j'ai tout ça? Parce que dans les deux versets que je vous ai lus à la fin de l'Exode 2, il y a quelque chose qui n'est pas dit, mais qui se passe, ou plutôt qui ne se passe pas, et qui fait une certaine distinction avec ce qui s'est passé 40 ans avant, et qui montre qu'il y a quelque chose qui a changé dans le cœur de Moïse. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que Moïse, oula, on remonte un peu plus haut. Voilà, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël, etc. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et après, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Moïse ne bouge pas. Moïse ne bouge pas. Longtemps après, le roi d'Égypte meurt. Donc finalement, la raison pour laquelle il a fui dans le désert, etc., etc., et qu'il est dans la vie qu'il est en train de vivre, de son point de vue ou comment dire, de ses choix de vie, c'est dû au fait qu'il y avait ce pharaon en Égypte qui le connaissait et qui allait, on va dire, le trucider ou courir après ou peu importe. Mais longtemps après, donc a priori, là, ce qu'on comprend, c'est 40 ans après à peu près, il meurt. Donc là, à la limite, Moïse pourrait voir, il a l'info et il pourrait voir une forme de retour de son projet initial. Et il pourrait très bien y retourner en ayant eu 40 ans de réflexion, ou je ne sais pas, enfin, d'une autre manière, aborder la chose autrement. Non, non, là, Moïse, il a compris une chose importante. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et pourquoi il ne bouge pas? Parce qu'en fait, si Dieu l'a amené pendant 40 ans dans le désert, c'est pour le façonner. C'est pour l'amener au point où il va y avoir cette rencontre en Exode chapitre 3, qui manifestement, du point de vue de Dieu, n'était pas possible avant. Alors, je ne dis pas qu'elle n'était pas possible avant, dans la durée des 40 ans qu'il a passé en Madian. Peut-être qu'elle était peut-être possible dans le cœur de Moïse avant, mais il y avait aussi des circonstances extérieures que Dieu a laissées pour les raisons qui sont les siennes, et notamment le fait que Pharaon, bah, il était toujours vivant. Et voilà. Parce que vous remarquerez que le pharaon suivant qui arrive et que va rencontrer Moïse, c'est pas un, comment on dit, c'est pas un ange, hein, je veux dire. Donc c'est pas mieux que le précédent en fin de compte. Mais il le connaît pas. Et ce qui est assez intéressant pour Moïse, c'est que quand il va commencer à rentrer dans sa mission à la manière de Dieu, personne le connaît en fait. Même les Hébreux sur place, en fait, ils le connaissent pas. Et quelque part, il arrive et tout le monde a oublié ce qui s'est passé 40 ans avant. Personne ne sait est-ce que ce gars, d'où il vient, il y a 40 ans, il a tué un Égyptien, j'en sais rien, personne n'en sait rien. Tout le monde n'en a rien à faire, en fait. C'est juste Moïse, il arrive et il dit, ben, Dieu m'a parlé, il m'a dit ça, 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 et je suis le protocole ou la méthode que Dieu m'a demandé de suivre. Et en fait, pour nous, dans notre vie, ça, c'est important. C'est la même chose. Quand vous lisez la Bible, il y a des choses que vous comprenez ou que vous discernez de la part de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses de suite et maintenant comme vous les avez compris. toujours. Il y a peut-être un temps d'apprentissage, il y a peut-être des choses à apprendre avant, il y a plein de choses. Et surtout, je pense une chose, c'est qu'avant de bouger, il faut qu'il y ait Exode chapitre 3. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette rencontre au buisson. Et ce qui, à mon avis, enlève de la puissance spirituelle dans ce que nous faisons pour Dieu, ou de ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, on va dire ça comme ça, ou dans le ministère que nous avons, ou n'importe quoi, c'est est-ce qu'il y a cette rencontre avant? Est-ce qu'il y a cette rencontre avant? Et une chose qui est assez phénoménale, c'est de voir que les 40 ans dans le désert de Madian ont changé Moïse, on va le voir là, mais vraiment, quand on voit les 40 dernières années de Moïse à nouveau dans le désert, après la sortie d'Égypte, avec le peuple, on se dit, mais c'est pas le même gars, quoi. C'est pas le même gars qui est en train de parler là devant Dieu. Alors, c'est pas du tout le gars impétueux 40 ans encore en avant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et c'est Dieu qui a fait quelque chose dans sa vie, en fait. Alors, ensuite, on va commencer à lire un petit peu là le. Alors, non, juste avant ça, peut-être, on va dire une chose, c'est que pour résumer quelque part Exode 1, Exode 2 dans la vie de Moïse et le mettre en parallèle dans notre vie, il y a un mot qu'on utilise des fois et qui peut, oui, résumer la chose, mais qu'il est bien peut-être de comprendre un petit peu. Je pense que c'est le brisement. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons deux natures et nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et des fois, il y a des auteurs, notamment Watchman Nee, mais il y en a d'autres, qui présentent le corps, l'âme et l'esprit comme trois cercles l'un dans l'autre. Et donc l'esprit est le cercle au milieu, quoi, le plus petit. Et ce qui est expliqué, c'est que si vous voulez, la vie de Dieu, elle est dans le cercle là au milieu. Mais pour que la vie de Dieu, qui est dans ce cercle, là au milieu, elle puisse se manifester pleinement et qu'elle puisse être visible pour les autres, puisque c'est quand même un peu et en grande partie un objectif que Dieu se propose dans nos vies, eh bien, en fait, il y a besoin de briser les coquilles extérieures, qui sont notre corps et notre âme. Et du coup, le brisement, les choses qui s'opposent à nous, les choses qui peut-être nous diminuent, nous handicapent, etc. Là-dedans, il y a des choses qui sont, on va dire, le cours naturel de la vie, mais ce n'est pas parce que c'est le cours naturel de la vie que ce n'est pas Dieu qui veut utiliser cela pour justement briser quelque part ce qui est de la chair ou ce qui est en connexion avec la chair, dans le sens de la puissance du péché, pour laisser jaillir la puissance de l'esprit qui est au centre. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, des fois, un accident, ça va avoir des traces physiquement, ça va avoir des traces psychologiquement, donc dans l'âme, et ça c'est appelé à produire un brisement qui doit libérer l'esprit de Dieu. La vieillesse, c'est pareil, et vous ne pouvez rien y faire, je veux dire, vous pouvez rien y faire. D'un accident, éventuellement, vous pouvez peut-être récupérer toutes les facultés que vous aviez avant. La vieillesse, non, ça avance et le rouleau compresseur, il avance et il avance dans le même sens et il ne va pas revenir en arrière. Et c'est un fait simple de la vie, mais c'est un fait que Dieu utilise. La maladie, je veux dire, vous n'êtes pas nécessairement malade parce que vous êtes fautif, hormis le péché originel, mais sinon, ce n'est pas forcément parce que vous avez commis des fautes. Mais Dieu va utiliser la maladie pour nous affaiblir, pour apporter ce brisement, afin. Ce n'est pas juste nous briser pour nous briser, c'est apporter une humiliation pour produire l'humilité qui est la caractéristique de l'esprit en nous. Et c'est tout ce que l'on voit dans la vie de Moïse. Vous savez, la vie de Moïse, on peut la lire dans différents sens. On peut la lire, une lecture, se dire, waouh, c'est un homme incroyable, l'appel qu'il a eu sur sa vie. Il a libéré les Hébreux d'Égypte, machin, ceci, cela. Il a eu une vie originale, il était Hébreu, il a grandi à la cour de Pharaon. Il était donc à la fois hébreu et élevé comme un Égyptien. Il a passé deux fois 40 ans dans le désert. Bon, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais en fin de compte, on peut aussi lire la vie de Moïse autrement. On peut se dire, mais C'était quoi l'intérêt de la vie de Moïse? Pendant 40 ans, tu étais un étranger à la cour de Pharaon, tu étais contre nature. Les 40 ans d'après, tu étais sur une terre étrangère. Et les dernières 40 ans, tu as comme projet initial d'amener le peuple dans le terrain promis. Et en fin de compte, ton projet va échouer, même si ce n'est pas à cause de toi. Enfin, il va échouer. Durant ta vie, il va échouer, même si ce n'est pas à cause de toi. Et toi, à la fin, tu ne vas même pas y rentrer. Donc, on peut dire, ben, la vie de Moïse, alors oui, un géant, et puis, oh ben, c'est pas très intéressant, quoi, finalement. C'est un peu un échec, quoi. Mais en fait, c'est pas un échec. C'est pas un échec, la vie de Moïse. C'est une vie avec des brisements pour libérer la vie de Dieu. Et ce qui est clair en même temps, c'est que la vie de Dieu, quand vous lisez toute la suite de Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et tout ce qui s'est passé, donc en fait la troisième partie de 40 ans qu'a vécu Moïse avec le peuple dans le désert, puisque finalement c'est ce qui nous est relaté le plus en long, en large, en travers, puisque là c'est que en quelques versets que les 40 premières années, les 40 secondes années sont décrites. On peut dire qu'elles ne sont même pas décrites, elles sont juste ultra, ultra résumées, quoi. On voit quand même un gars qui vit pendant 40 ans quelque chose d'extrêmement particulier avec Dieu. Quelqu'un qui, on peut le dire, c'est un anthropomorphisme, mais qui voit Dieu face à face, quelque part. Je veux dire, quelqu'un qui a des millions de gens devant lui, qui guide un peuple dans un désert, c'est pas du tout rigolo, mais même quand il est mis en accusation pour les gens qui sont rebelles, etc., je veux dire, il est tranquille dans ses baskets, Moïse. Il est tranquille dans ses baskets. Il va parler à Dieu. Lui, il voit Dieu et il a des choses à dire de la part de Dieu. Il est parfaitement dans la volonté de Dieu, etc., etc. Et vraiment, il y a un caractère d'humilité et de douceur qui est construit en lui, qui est déjà construit dans la deuxième partie de 40 ans, mais qui va être construit sur la dernière partie. Pourquoi je dis ça? Parce que... Est-ce que je le dis à la fin? On va le dire à la fin, comme ça sera mieux. Vous me rappellerez qu'il faudra qu'on lise Deutéronome 34 à la fin. Vous ferez, je ne sais pas, vous mettrez une main, pouce, quelque chose, vous vous débrouillerez. Si vous voyez que je dis, ben, c'est fini, puis que je ne parle pas de Deutéronome 34. Alors, on va lire un peu le texte et on va un petit peu sortir quelques petits éléments de là, juste pour faire un espèce de petit résumé, pas résumé, ou même faire un petit peu... une pancarte publicitaire sur ce que je viens de dire. On peut lire en Deutéronome 8.2. Ça s'adresse au peuple, mais en fin de compte, ça s'adresse et à Moïse, et à nous, et à qui veut bien l'entendre. Même si forcément, nous, ce n'est pas exactement les mêmes situations que nous vivons, mais comme je vous dis, on peut faire un parallèle entre les déserts de Moïse et nos déserts à nous. En Deutéronome 8.2, il est dit, souviens-toi, il est parlé à Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'as fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, enfin de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant, etc., etc. Voilà, juste un peu en résumé, ce projet de brisement, de correction, de façonnage de la part de Dieu à travers des situations qui ne nous plaisent pas, qui nous affectent, etc. C'est pour ça que fonctionner selon un principe de bien et de mal, c'est pas du tout fonctionner avec Dieu. Non seulement c'est du légalisme qui nous fait mal à nous et aux autres, mais c'est surtout fonctionner dans... C'est ne pas fonctionner dans la sphère de Dieu. C'est pour ça que, en tant que chrétien, chercher dans toutes les situations qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'il faut pas, c'est juste d'une certaine manière, mais en fait, ce n'est pas la manière de fonctionner de Dieu. Dieu, il va plutôt dire, OK, cette situation t'arrive. La question n'est pas qu'est-ce qui est juste, la question n'est pas comment je vais en sortir. La question est, Dieu l'a permise ou l'a amenée ou ce que vous voulez, c'est pourquoi faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie avec cette situation qui m'affecte, qui me plaît pas, qui me pose problème? Des fois, ce sont aussi des situations positives qui peuvent faire aussi ce travail-là parce que finalement, face à une forme de prospérité, on ne sait pas comment réagir non plus. Et on gâche les moments, on comprend pas ce que Dieu veut là-dedans, parce que nous, quand on nous fait un cadeau, on se dit, ben voilà, juste, tu me fais un cadeau, ben je mange les bonbons, quoi, voilà. Mais c'est pas, est-ce que Dieu te donne des bonbons juste pour manger des bonbons, ou est-ce qu'il y a un projet autre derrière qui est censé construire quelque chose dans ton âme? Donc voilà, mais la plupart du temps, c'est plutôt avec des situations qui nous contraignent, qui nous déplaisent, qui nous posent problème et voilà, qui nous plaisent pas. Et comme là, on l'a vu dans Deutéronome 8.2, ce travail d'humilité et d'humiliation, si vous voulez, est là, entre autres, pour nous amener à réaliser ce qu'il y a au fond de notre cœur. Parce que théologiquement, ok, je sais, je suis pécheur, 100% pourri, Christ est mort pour moi, ben c'est bon, maintenant parle-moi d'autre chose. Ouais, mais on va parler d'autre chose, mais on ne va pas que parler d'autre chose, parce qu'en réalité, la nature humaine fait que ça, elle ne le comprend jamais correctement. Et comme il est dit dans le Nouveau Testament, je crois que c'est Paul qui parle aux Corinthiens, si vous pensez connaître, vous ne connaissez pas comme vous devez connaître. Donc ça veut dire que nous sommes toujours en train d'apprendre, et il y a toujours une profondeur de connaissance, mais je dirais spirituelle, à avoir dans les choses de Dieu, quoi. Je veux dire, dans le royaume de Dieu, dans la compréhension de ce que Dieu fait, etc., etc., et même de sa personne à lui. Alors, on va lire un petit peu plus parce que là, je me suis étalé. Je ne me suis pas fait mal, remarquez, vous inquiétez pas, hein. Donc, Exode 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il le mena, et oui, et il mena le troupeau, pardon, derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc, chose intéressante, il se cache le visage, ça veut dire qu'il a quand même, même s'il a été élevé par les Égyptiens, il a une connaissance du Dieu des Hébreux, un tant soit peu. Autre chose, ici, donc le buisson, il est en feu, mais il ne se consume pas. Et ça, on peut donner différentes explications à ça. Bon, les commentateurs donnent telle ou telle explication. Et déjà, la première chose dans le récit, pourquoi est-ce que Dieu fait brûler un buisson qui ne se consume pas? C'est déjà pour attirer l'attention de Moïse et pour l'arrêter. Mais il aurait pu l'arrêter en faisant autre chose. Donc, il y a quand même certainement un sens à ce buisson en feu qui ne se consume pas. Mais déjà, première chose, c'est attirer son attention parce qu'il veut avoir une conversation avec Moïse. Mais ce buisson qui brûle sans brûler, finalement, c'est assez intéressant parce que ça peut nous parler, ça peut nous parler de quoi? Ben, ça peut nous parler d'une chose, c'est que, comment dire, Dieu est éternel et lui, en fait, il ne se consume pas. Lui, il ne se consume pas. Être en feu, ou un buisson en feu, c'est produire de l'énergie. Mais il ne se consume pas, ce buisson. Donc, en fait, Dieu n'a pas de limite à ce qu'il fait. Et une chose, du coup, que ça doit nous amener, c'est que Dieu est le même. Dieu est le même. C'est comme si Dieu était en train de dire à Moïse, on ne va pas aller pousser trop loin, mais quand même, on va le dire, ça peut être intéressant, C'est comme si Dieu est en train de dire, tu sais, ce buisson, j'aurais pu le faire brûler il y a 40 ans. On aurait eu cette discussion il y a 40 ans. Mais cette discussion, on peut l'avoir 40 ans après malgré tout, parce que je suis Dieu et le buisson, il n'est pas consumé. Si le buisson se consumait, ben, Dieu aurait pu attirer l'attention de Moïse avec un buisson qui se consume. Mais s'il devait se consumer il y a 40 ans, 40 ans après, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien. Mais comme il ne se consume pas, le buisson est toujours là. La rencontre avec Dieu est toujours là, est toujours disponible. Et Dieu est toujours là, il est toujours disponible, il est toujours rencontrable. Et le plan de Dieu est toujours là et il est encore réalisable 40 ans après. Donc je dirais que c'est un petit peu, à mon goût, ce que Dieu, veut dire, entre autres, à Moïse. Peut-être que je me trompe un peu, peut-être qu'on peut dire d'autres choses plus pertinentes, je ne sais pas, en tout cas, ça me paraît avoir un certain sens. Donc ensuite, verset 7. Donc l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays. Dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc là, il explique le projet, il donne de la précision parce que Moïse, 40 ans avant, il avait peut-être un projet dans sa tête de faire une révolution et de libérer son peuple. Dieu a un projet plus grand. Il veut le libérer et il veut l'emmener à un endroit précis. C'est déjà pas exactement la même chose. Ici, la manière dont Dieu parle, comme à d'autres endroits, c'est un anthropomorphisme. Dieu parle comme s'il était un homme, comme s'il était limité comme nous et comme s'il était dans le temps. Évidemment que Dieu ne vient pas de se réveiller de sa sieste et réaliser 40 ans après que les Hébreux, ça fait quand même quelques siècles qu'ils sont en esclavage en Égypte, qu'ils souffrent. Ce n'est pas depuis hier ou avant-hier qu'ils souffrent, ça fait un moment qu'ils souffrent. Et Dieu le savait déjà 40 ans avant quand Moïse a tenté de faire un peu quelque chose. Donc c'est un anthropomorphisme et il faut le prendre comme tel et pas chercher à des explications. Je dirais dans tous les détails, ou à se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Donc, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Égypte? Pardon, les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, comme je l'ai dit l'autre soir, ici, ben forcément, la réponse que Dieu donne, d'un côté, elle ne me satisfait pas parce qu'il n'est pas en train de me donner enfin, la deuxième partie n'est pas en train de me donner une garantie. La première partie, si, il dit, je serai avec toi. Ça, c'est la garantie. La deuxième partie, c'est quand tu auras fait sortir les enfants, enfin, les Hébreux d'Égypte. Vous adorerez ensemble sur cette montagne, et donc en gros, ça sera le signe que c'était bien moi qui t'ai parlé. Ça, forcément, ça fait un encouragement un petit peu moyen, mais par contre, ça signifie que Dieu est en train de lui dire, non, mais en gros, je me fous de la discussion que tu es en train de me dire, de tes arguments. Moi, je te dis que tu vas le faire et que ça va se réaliser. Je suis pas en train de te dire, est-ce qu'on va faire peut-être comment. Dans quelle mesure tu vas partir? Non, je suis en train de t'expliquer, je suis Dieu. Et tu vois, le buisson là, il est en feu et il ne brûle pas. Et bien, celui qui fait que le buisson il est en feu et qu'il ne brûle pas, il est en train de te dire, tu vas les sortir du pays d'Égypte et vous allez adorer là. Et ça va confirmer simplement que tu n'es pas en train de rêver. Tu vas vivre réellement quelque chose avec moi et avec eux. Et c'est bien moi qui t'ai parlé. Donc ça, c'est ce que Dieu dit. Chose intéressante, c'est que Dieu ne répond pas à la réponse, enfin à la question ou à l'interrogation de Moïse. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Non, il lui dit comment? Comment? Ou quels sont les éléments? Voilà, il lui dit, Je serai avec toi et ça va se faire. Je serai avec toi et ça va se faire. Parce que Dieu aurait pu rentrer dans une forme de confrontation et dire, mais qui est-ce que tu es pour délivrer de... Ben écoute, tu es le gars qui a essayé il y a 40 ans. Donc maintenant, tu vas m'écouter et moi j'ai un projet et ça va marcher. Mais il ne dit pas ça. Tant mieux qu'il ne dise pas ça. Tout comme Dieu, en général, il ne nous parle pas de cette manière-là. Il nous dit plutôt, mais prends courage, je suis avec toi. Je t'assure, ça va se faire. Et tu vas voir, c'est comme dans un rêve, mais ce n'est pas un rêve. C'est comme dans un rêve, mais ce n'est pas un rêve. On continue, verset 14, le verset très connu de la Bible. Non, 13, faut lire les versets avant quand même. Hein. Verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors, moi, je trouve ça encore quelque chose d'assez intéressant ici, avant de lire la réponse de Dieu. La chose qui est intéressante, c'est en fait, moi, quand je lis jusque-là, si vous êtes d'accord avec moi, Dieu a déjà répondu. Je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Ben, ça y est, il a répondu. Pourquoi tu lui demandes encore son nom? Moi, je crois que ici, Dieu pose la question, pas Dieu, pardon, Moïse pose la question à Dieu, parce qu'en fait, la question de Moïse, ce n'est pas quel est ton nom, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui es Dieu et qui a patienté, qui a patienté, qui m'a fait patienter 40 ans en Madian, qui es-tu? Qui es-tu, toi qui fais brûler un buisson qui ne brûle pas, qui es-tu? Toi qui es absolument sûr qu'avec moi, tu vas sortir le peuple d'Égypte et tu vas l'amener à tel endroit, qui es-tu? Qui es-tu? Et Dieu répond à cette question-là. Il ne lui donne pas un nom, je m'appelle le Tartampion, je suis le super Superman, je suis je ne sais pas quoi. Non, non, il lui répond à sa question. Verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il y ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et regardez la suite pour conforter ce que je viens de vous dire. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Ben alors, il s'appelle comment? Il s'appelle Je suis ou il s'appelle le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob? Apparemment, je veux me faire connaître comme étant le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Mais je réponds à ta question. Qui je suis? Quel est mon caractère? Quelle est la personnalité de ce Dieu? C'est je suis celui qui est. Et tu diras à ce peuple, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Donc ça, c'est la rencontre de Moïse avec Dieu. On va peut-être pas aller beaucoup plus loin, mais on va juste dire une chose. Là, justement, il dit, je suis celui qui suis. Ce qui signifie, en fait, en gros, je fais très simple, en gros, c'est le verbe être en hébreu. Voilà. C'est comme si je suis Dieu, je parle en français, je dis, vous me demandez comment je m'appelle, et je vais dire être. Être. Être, le présent, un présent continu, un présent qui continue. Je suis. Voilà, c'est tout. Ça c'est qui est Dieu. Et ce qui nous amène à une chose, c'est que Dieu dit aussi une chose à travers ce verbe être et à travers ce présent, c'est que Dieu, il était, il est et il sera. Et il est toujours présent. Et nous, on a besoin de marcher avec Dieu. Avec un Dieu qui est au présent. Pas avec le Dieu que j'ai connu, pas avec le Dieu que je rencontrerai un jour, pas avec le Dieu figé dans des mots dans la Bible, même si c'est plus qu'important, on l'a encore lu en Deutéronome 8, 2, 3, 4, 5, 6, hein, puisque voilà, je vous apprendrai que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et on le retrouve en Matthieu 4,4 et on le retrouve en Luc 4,4. Donc, c'est hyper important, mais on a besoin que, si vous voulez, que les mots prennent chair. Et ils ont pris chair, CH hier, bien sûr, en Jésus-Christ. Et donc, on a besoin de rencontrer ce Dieu au présent. On a besoin d'avoir cette rencontre-là. Et c'est pour ça que je pense que bouger avec Dieu, marcher avec Dieu, faire un pas avec Dieu, s'engager quelque part dans ce que Dieu propose, il faut qu'il y ait une rencontre. Et il faut non seulement qu'il y ait une rencontre, il faut que Dieu soit encore présent aujourd'hui. En Exode 34,